bonsoir. Donc, ce soir, nous allons parler de réseaux sociaux avec un point de départ qui est les amis de mes amis sont-ils mes amis. Mon idée, c'est de faire un petit tour ce soir quand même, de revenir peut-être un petit peu sur ce que sont les réseaux sociaux, d'où ça sort, comment ça a apparu un petit peu, puis d'en situer un petit peu quelques-uns. Je ne sais pas si parmi vous, alors comme j'ai un fil d'histoire qui pourrait devenir trop long si je m'attardais trop sur certains détails, est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça dit quelque chose lorsque j'utilise le mot PHP Nuke? Vous inquiétez pas, ça n'est pas grave. C'est juste pour que moi, je sache un petit peu à droite à gauche, si je dis SPIP. Ah, c'est bon. Ah, c'est pour baliser un petit peu. Ok. Si je dis un squelette dans SPIP. Ok. Voilà. C'est bon, on y est. Bien. Revenir un petit peu sur ce que sont les réseaux sociaux. Mais vous verrez que je partirai de l'idée quand même que le premier des réseaux sociaux modernes qu'on utilise aujourd'hui, c'est un réseau qui s'appelle Internet. Et puis après, on verra qu'à l'intérieur d'Internet, il y a d'autres choses qui ont été décrétées comme étant des réseaux sociaux. Ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit un beau matin de 2002 pour les uns, 2005, 2007 pour les autres, etc. etc. Mais qu'ils sont quand même le fruit d'une histoire, de choses, d'enjeux, de pratiques, d'usages, d'internautes, d'attentes, de frustrations, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui ont amené à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, avec l'idée que les amis de mes amis, avec un S sur le deuxième ami, ça marche aussi. Effectivement, cette idée-là, c'est que on a une sorte de convivialité qui sera apportée par le réseau et où on aurait une plus grande proximité des uns avec les autres. Ben, on va voir d'où ça vient un petit peu cette idée, et puis si ça se vérifie, jusqu'où ça se vérifie. Et puis derrière cette idée, les amis de mes amis, si les réseaux sociaux sont mes amis, est-ce que les amis des réseaux sociaux sont aussi mes amis? Donc les gens qui sont derrière les réseaux sociaux en vérité. Donc un petit peu cette idée-là. Alors je vous propose de commencer par un petit extrait d'une vidéo qui dit que pour exister, il faut avoir des amis. Donc, c'est un extrait d'un dessin animé américain de South Park, l'épisode 4 de la saison 14 pour les fans, que vous pouvez trouver depuis 5 jours sur YouTube. Ce petit extrait m'a été censuré sur YouTube parce que je l'avais mis à disposition pour mes étudiants. Donc, les 36 secondes qui dure l'extrait étaient considérées comme un odieux piratage d'un dessin animé américain. Et donc, ça avait été censuré et fermé comme page. Mais depuis 5 jours, voilà. Donc ce petit garçon existe enfin parce que il a quelqu'un qui a dit qu'il était d'accord pour être son ami. Et lui, il a validé aussi. Alors, je vous recommande malgré tout l'épisode dont j'ai mis le lien, donc que vous pouvez regarder sur YouTube. Pour l'instant, il n'est pas traduit. Si vous vous débrouillez, vous arriverez probablement à trouver quelque part une version traduite ou les sous-titres qui vont avec. Mais je considère que c'est un des meilleurs documentaires sur YouTube. Donc, l'épisode 4 de la saison 14 de South Park. C'était un petit peu pour situer le propos et l'idée qu'on est face à un phénomène d'ampleur, puisque on estime que les trois quarts des internautes français sont sur des réseaux sociaux. En 2010, les réseaux sociaux auraient généré plus de trafic sur Internet que la pornographie. Et qu'en 2011, Facebook aurait été le site le plus consulté de la planète, devant Google. Ceci étant, et ce qui m'intéresse, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'ont déjà entendu causer sur les réseaux sociaux, je suis parfois assez critique sur la nature du phénomène et puis sur la pérennité du phénomène. Et donc, effectivement, on constate un, des ralentissements dans la croissance de la courbe à certains endroits, et puis deux, on constate même qu'à certains endroits, eh bien, ce qu'on appelle les réseaux sociaux sont plutôt en déflation, tant et si bien que depuis 2013, eh bien, Google est repassé devant Facebook, que Yahoo est en train, je crois, de passer devant Facebook à son tour, et donc que Facebook est en train de régresser en termes d'utilisation. Alors, il en reste pas moins que j'essaierai d'expliquer de trouver une explication à ce phénomène et expliquer un petit peu la réussite. Mais le concept de réseau social, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. C'est un vieux concept qui part un petit peu justement sur cette logique qui dit que les amis de mes amis sont mes amis. En vérité, qui partait aussi souvent du truc inverse, c'est que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais ça, c'est un truc personnellement auquel j'ai toujours du mal à adhérer. Mes ennemis sont mes ennemis, et puis les ennemis de mes ennemis peuvent aussi être mes ennemis, tant qu'à faire, plus j'en ai, plus mieux je me porte. Ça permet de soigner cette petite paranoïa de base. Mais à côté de ça, on est quand même dans l'idée que les médias ont toujours fonctionné sur des logiques de proximité et entretenu des formes de réseau. Des formes de réseau au travers des correspondances, au travers du coup de la mise en place de toute une structuration qui permettait d'échanger et puis d'avoir comme ça des réseaux de personnes qui en présentaient d'autres, etc. Qui faisait que dès les années 30, bien avant, mais dès les années 30, il y avait notamment un Hongrois, Karinthy, qui considérait, qui émettait l'hypothèse que grosso modo, il y avait 6 personnes qui nous séparaient de n'importe quelle autre personne sur la planète. C'est-à-dire que, derrière, je rajoute le nom de Milgram. Donc Stanley Milgram, certains le connaissent peut-être, Stanley Milgram, pour justement ses expériences sur la soumission à l'autorité. Mais il a aussi travaillé donc sur la logique du petit monde. Et l'idée que, eh bien, si on donne une lettre à quelqu'un, et qu'on dit à cette personne, cette lettre, sans passer par la poste, eh bien, elle doit arriver sur le bureau de telle autre personne qui se trouve dans tel pays, eh bien, cette lettre devrait y arriver. Et le calcul serait que ça arrive justement avec toujours ces espèces de 6 personnes, enfin, ces 6 séparations. Donc ça veut dire qu'on fonctionne dans l'idée que si je dois envoyer quelque chose, un prix au président des États-Unis, eh bien, je vais peut-être l'envoyer à un copain qui est américain. Ou je vais l'envoyer à un copain qui lui connaît quelqu'un qui est à l'ambassade, qui va le faire passer à quelqu'un qui connaît le quelqu'un qui a vu l'ours. Et donc, finalement, c'est a priori un système qui fonctionne. Une partie des expériences de Milgram semble s'être avoir prouver cette hypothèse, et puis d'autres expériences selon les modalités sont un petit peu moins convaincantes sur ce fonctionnement-là. Mais l'idée, c'est que les réseaux sociaux reprennent énormément cette idée-là et disent que du coup, ce qui fait le succès des réseaux sociaux, ce qui aurait fait le succès des réseaux sociaux, ça serait justement cette idée que les amis de mes amis me permettent d'être en contact avec tout le monde et de diffuser très rapidement de l'information, et que les réseaux sociaux vont de cette façon-là faciliter la circulation de l'information. Ça veut dire que si vous cherchez un travail, vous le dites à votre réseau, et puis votre réseau le dit aux personnes qui sont à côté d'eux, et de fil en aiguille, comme ça, assez rapidement, eh bien, on a une information qui va venir en retour, on va avoir un feedback qui va permettre de dire oui, il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme toi à tel endroit, et donc tu peux y aller de la part de machin, de la part de truc et de la part de bidule, et que ça serait opérationnel, ça permettrait de trouver du boulot. Alors ceci étant, il y a un Britannique qui s'appelle Dunbar qui lui imagine a travaillé plutôt sur la disponibilité de notre néocortex à gérer des relations sociales stables, c'est-à-dire se rappeler de qui sont les personnes, de se rappeler de leur nom, leur prénom, qui ils sont, où est-ce qu'ils se situent dans leur vie professionnelle, dans notre vie affective, etc. Et que le calcul qu'il effectue, c'est que notre néocortex nous permettrait de gérer, entre guillemets, naturellement, 148 relations sociales stables. Donc vous voyez que ça fait au final une petite tribu. Et que là encore, certaines études sur les réseaux sociaux actuels seraient tentées de montrer que effectivement, on a généralement un périmètre pour des individus moyens de 150 relations. Après, vous allez avoir, malgré tout, pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, vous avez des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de suiveurs. Mais on n'est plus dans cette logique d'une relation sociale stable. C'est-à-dire qu'on commence déjà à être dans une relation qui est médiatisée, qui est gérée par de la technologie, etc. Et donc, la personne qui a 600 contacts sur son compte machin ou sur son compte truc, ne connaît pas les 600 personnes. Elle a 600 contacts, pas 600 relations. Parce que, a priori, après, notre mémoire, notre système neuronal ne serait pas capable de gérer véritablement plus de 150 relations. De façon, on va dire, naturelle, sans une assistance qui nous amènerait des mémos sur les personnes avec qui on discute. Les gens qui font du démarchage, les VRP, les commerciaux, etc., connaissent bien cette logique-là, puisque, a priori, un bon commercial, ben, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu plus de mémoire des noms, des visages, et puis des parcours des personnes qu'ils rencontrent. Il y en a qui s'en rappellent un petit peu mieux que les autres, mais en règle générale, il ne faut pas se leurrer, ils travaillent avec un fichier qui est dans la voiture, et quand ils ont fini de rencontrer quelqu'un, et ben, ils vont prendre des annotations sur la fiche qui leur permettra, lorsqu'ils vont revenir plus tard, de donner l'impression qu'effectivement cette relation continue d'exister comme si c'était une relation sociale qui était assez proche. Donc voilà un petit peu cette espèce d'histoire des réseaux sociaux. Je disais que c'était dans les gènes d'Internet, que ça faisait partie de l'histoire d'Internet, parce que, rappelez-vous déjà ce que je vous avais dit sur le réseau ARPANET. Le réseau ARPANET, celui qui est l'ancêtre d'Internet, c'est un outil de travail pour les scientifiques. C'est un outil de communication entre les personnes qui travaillent sur des projets communs. Donc, à la base même du réseau, c'est de mettre à disposition d'un groupe de chercheurs un outil permettant de partager des données, et derrière les données, les premières données qu'on peut partager, ce sont des messages. Donc, derrière, des choses comme ce qui va s'appeler le courrier électronique. Vous voyez que je rajoute des petits trucs du style les BBS. Alors les BBS, ce n'est pas des Brigitte Bardot au pluriel, mais c'est des Bulletin Board Service. Le Bulletin Board Service, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait un forum. Alors ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, mais c'en est très 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 proche. Ce sont des endroits où les gens viennent poster des messages qui sont publics pour une communauté qui a accès à ce BBS. Et on va pouvoir répondre à ce message, on va pouvoir compléter ce message et on va pouvoir partager des données, aussi bien des textes, mais éventuellement des fichiers binaires tels que des images, tels que des programmes, etc. etc. On est dans les années... là, ça existait à la fin des années 80, début des années 90. Et puis, les bases des réseaux sociaux se retrouvent au travers notamment de ce qu'on va appeler les listes de discussion et les listes de diffusion. Alors c'est quelque chose qui s'est estompé un petit peu ces dernières années, mais qui continue d'exister, et les plus vieilles communautés d'utilisateurs, les plus vieux réseaux d'utilisateurs sur Internet, continuent d'utiliser les listes de diffusion. Vous avez des listes de diffusion qui aujourd'hui ont plusieurs dizaines d'années du coup, et où vous avez toujours des gens qui continuent à échanger dessus. Que les pionniers de l'Internet sont encore des adeptes, voire des addicts, de ce genre d'outils de communication qui fait qu'on communique par l'intermédiaire d'un logiciel de messagerie qui nous permet d'envoyer à une adresse particulière un message, et cette adresse en fait est un robot qui redistribue le message à une communauté. Et le robot peut être réglé de différentes façons, c'est-à-dire soit le message est uniquement diffusé aux personnes qui sont inscrites à la liste, soit le message est modéré, il y a quelqu'un qui va donner son feu vert pour que le message soit distribué à l'ensemble des personnes qui sont sur la liste, soit le message, il va être diffusé à tout le monde, mais les gens pourront aussi répondre. C'est-à-dire, dans un premier cas, on était dans une logique de diffusion uniquement, à sens unique. mais on peut avoir une réponse à ce message. Et cette réponse, là aussi, on va avoir des réglages tout à fait divers qui permettent de dire que la réponse, elle se fait uniquement à la personne qui a posté sur la liste, ou la personne, elle se fait à l'ensemble de la liste. Donc vous voyez que ce sont des réglages qui ont l'air comme ça, des réglages un petit peu compliqués, mais qui sont véritablement de la gestion de collectif. Parce que effectivement, quand je crée une liste qui est uniquement une liste de diffusion, on voit bien que j'adopte une posture communicationnelle qui est particulière. Je suis détenteur de l'information et j'informe les gens. Dans cette logique-là, je suis dans une logique de ce qu'on appellera plus tard la newsletter, la lettre de diffusion, la lettre d'information, qui reprend des vieilles lettres d'information qu'on avait sous format papier il y a déjà des dizaines d'années de ça, voire même il y en avait dans les siècles précédents. La liste ici est donc une liste de diffusion, mais si j'autorise les membres de la liste à répondre, je crée une liste de discussion. Et là, on voit bien qu'on a une espèce de règlement politique, de règlement démocratique qui définit qui peut répondre à la liste. Est-ce que n'importe qui peut répondre à la liste sans le moindre filtre? Et d'abord, pourquoi on s'est mis à introduire des filtres dans les listes? Puisqu'au départ, il n'y avait pas de système de filtrage. Les gens répondaient à la liste et tout le monde recevait. Ce qui se passe quand on a des logiques de ce type-là, c'est qu'on va avoir effectivement tout un tas de logiques politiques, en vérité, de cooptation. C'est-à-dire que les gens qui sont membres de la liste, est-ce qu'ils sont membres de la liste? Simplement parce qu'ils sont inscrits auprès du robot, en disant « robot, je veux faire partie de cette liste ». Le propriétaire de la liste peut définir des règles qui disent que tout le monde s'y inscrit. Il peut aussi définir d'autres règles qui disent qu'on s'inscrit par cooptation, par parrainage, etc. Et donc que la personne qui veut rentrer sur la liste, elle envoie d'abord son message au propriétaire de la liste, qui informe les membres de la liste, qui vont décider, selon un mode de scrutin qui leur sera propre, de décision qui leur sera propre, si on accepte ou non un nouveau membre à la liste. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi avoir des logiques qui disent que c'est une liste qui est ouverte à tout le monde, mais on préfère qu'il y ait un filtrage des messages avant que ce soit diffusé à tous, parce qu'on ne veut pas que ça lance des polémiques. Et puis il y a d'autres listes qui considèrent qu'au contraire, on est dans une logique de débat et tous les messages doivent passer. Mais lorsque je vais fonctionner de cette façon-là, vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est bien gentil, au début il n'y avait que 3-4 messages par semaine sur la liste, et puis là, quand il y a des polémiques, je me mets à recevoir 20 messages par jour. » Donc, ça m'implique trop dans la communauté d'être à l'écoute de ce que les autres disent ou d'avoir l'information de ce qui se passe. Bien va être quelque chose qui va commencer à me submerger dans mon quotidien, et si la liste n'entre pas dans mes thématiques prioritaires, dans mes pratiques prioritaires, eh bien, soit je vais quitter la liste, soit je vais découvrir que le système de liste a là aussi d'autres fonctionnalités qui permettent par exemple de récupérer ce qu'on appellerait en anglais un digest, un résumé, un condensé de l'histoire de la liste. C'est-à-dire qu'on va avoir des listes qui vont permettre d'avoir un résumé quotidien de tous les messages en un seul. Donc on ne reçoit pas 25 messages, on reçoit un message où il y a l'ensemble de la discussion, etc., etc. On a après des évolutions techniques par rapport à ça qui font que les logiciels de messagerie eux-mêmes vont évoluer pour gérer ce type de situation. Notamment, on a l'impression que, par exemple, la fonction sujet dans un message, c'est quelque chose qui est anecdotique. Eh bien, pas du tout. Pour un logiciel de messagerie, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent. Parce que dans une liste de discussion, dans ces premiers réseaux sociaux, si vous répondez au message, le message conserve son sujet de base par défaut et le logiciel lui rajoute devant deux petites lettres, re, suivies de deux points, qui disent donc que c'est une réponse au message. Ça permet de cette façon-là, au logiciel, comme aux personnes qui le reçoivent et qui n'utilisent pas un logiciel pour faire ce filage, cet héritage entre les messages, ça va permettre de créer un héritage entre les messages, ce qui va permettre au logiciel éventuellement de classer les discussions par fil. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tous les messages de la discussion qui vont apparaître dans le logiciel de messagerie, mais si le logiciel de messagerie fait bien son boulot et qu'il est réglé pour ça, eh bien, il va replier le premier message et ajouter tous les messages avec les réponses aux réponses des réponses. Et donc, de cette façon-là, eh bien, on va avoir l'arborescence de ce qui s'est passé au sein de la discussion. On est dans les années 90 et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Vous avez encore plein de gens qui utilisent ces techniques-là. voire même, je dirais aujourd'hui, des gens qui y reviennent. Parce qu'on va s'apercevoir après que finalement, ce truc-là qui semblait très gourmand devient au final une technique qui, lorsqu'on la maîtrise, lorsqu'on a appris à s'en servir un minimum, lorsqu'on trouve les informations, que la documentation qui va bien est accessible, et que les outils sont améliorés pour aller dans ce sens-là, eh ben, ce sont des outils qui sont hyper puissants. Ils sont hyper puissants déjà pour une raison parfaitement fondamentale et qui va changer avec le point suivant, c'est celui des sites web. C'est que lorsque je suis dans de l'utilisation de messagerie, je communique, je dirais, d'une certaine manière en push. C'est-à-dire que j'envoie l'information, je destine l'information à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont à la rencontre de l'information, c'est l'information qui va finir dans leur messagerie. Et quand ils vont ouvrir la messagerie, ils auront l'information. C'est ce qui va changer par rapport au web. Au web dont je vous avais parlé la semaine dernière, en vous racontant l'histoire de la météo, et que l'idée de la météo, c'est que plutôt que d'envoyer un message à chaque personne, les personnes qui voulaient savoir allaient chercher l'information au bon endroit. Bien, ça veut dire que dans ce cas-là, on est dans une démarche où l'utilisateur doit se dire « Tiens, il y a peut-être quelque chose de nouveau, et je vais aller voir. » Donc effectivement, il est dans une situation qui est moins invasive, puisqu'il n'aura l'information que s'il va la chercher. Mais ça veut dire que s'il ne va pas la chercher, il ne l'aura pas. Et vous voyez que là aussi, on peut avoir des logiques de groupe social qui vont avoir besoin que tout le monde ait l'information. Je suis dans une association où le bureau doit discuter d'informations et c'est une association qui fonctionne en ligne parce que les gens sont à distance. On ne peut pas dire je mets l'information sur le site web et aux membres du CA d'aller sur le site web pour voter, pour s'informer sur le texte sur lequel on va prendre une décision collective. Je dois faire en sorte de m'assurer qu'ils vont bel et bien recevoir cette information-là. Et la liste qui poste dans la messagerie fonctionne bien. On voit bien que le web, lui, en sens inverse, eh bien, va permettre d'alléger aussi la surcharge, l'infobésité qui pourrait apparaître à l'intérieur de notre messagerie. Donc, les premiers sites web deviennent des lieux qui permettent de capitaliser une information qu'on n'envoie pas systématiquement aux gens. Au départ aussi, permettent de mettre une information qui est une information éventuellement volumineuse par rapport à des messageries à une époque où on n'est pas encore dans le haut débit. Et où, par exemple, on ne va pas envoyer des photos aux gens. Ça ne se fait pas. Dans les années 90, on n'envoie pas des photos aux gens. Parce que envoyer une photo, surtout une grosse photo, ça veut dire que la personne, pour qu'elle lise sa photo, il va falloir qu'elle reste connectée le temps que la photo arrive. Et à cette époque-là, on paye la connexion au temps. On n'est pas dans une logique de haut débit en plus, donc on met très longtemps à collecter l'information. Non, ça ne s'appelle pas le RSS, j'en parlerai plus tard, parce que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Dans les années 90, les flux RSS, c'est quelque chose qui est ultra expérimental. À partir de la période, je dirais, la deuxième moitié des années 90 et puis l'arrivée des années 2000, on entre dans le web dynamique. Alors là aussi, je vous l'avais évoqué. On a aussi un autre truc qui se développe, qui existait déjà un petit peu avant, mais qui se développe très fortement, ce sont les chats. Plus exactement, au départ, ce sont les IRC, Internet Relay Chat. Ce sont des systèmes qui permettent, et vous le voyez sur la diapo, la partie qui est en bas ici, c'est une fenêtre à l'intérieur de laquelle eh bien, des utilisateurs vont pouvoir, de façon synchrone, échanger les uns avec les autres. Alors quand je vous disais que le réseau Internet, c'était un réseau social avec tous les outils d'un réseau social, c'est qu'à cette époque-là, eh bien, effectivement, si on voulait échanger en direct de personne à personne, on avait des messageries instantanées, comme vous les avez listées sous les chats, ICQ, ICQ, donc en anglais ça se prononce ICQ, c'est donc je te trouve, AIM c'est AOL Instant Messenger, et puis MSN qui a disparu il n'y a pas très longtemps, mais qui était Microsoft Messenger. qui était le messager instantané, entre guillemets, le client de messagerie instantané de Microsoft. Donc, messagerie instantanée, ça veut dire que de personne à personne, je peux échanger au départ en mode texte, plus tard en mode son, et ça, ça rappelle le téléphone, mais on va dire que les messageries instantanées, c'est du téléphone en texte. Et puis les chats, eh bien, c'est du salon de clavardage, comme diraient les Québécois. C'est-à-dire qu'on va, pitonner sur nos claviers, ça aussi c'est du Québécois, pitonner, appuyer sur les touches de notre clavier, et discuter directement dans une fenêtre, à plusieurs, où là aussi, eh bien, on va avoir donc du coup l'ensemble des outils qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La différence, c'est qu'au lieu qu'ils soient sur un site, ils sont sur un ordinateur, il y a plusieurs logiciels qu'on va faire fonctionner en même temps, plus ou moins en même temps, selon le type et la nature des échanges qu'on veut avoir avec les personnes. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de faire de la messagerie instantanée, parce que vous n'avez pas envie que les gens sachent qu'à 3h du matin, vous n'êtes pas en train de dormir. Au contraire, il y a des fois où vous allez vouloir qu'à 3h du matin, les gens sachent que vous êtes là, et puis qu'éventuellement vous auriez envie de discuter avec quelqu'un. Donc, on va comme de cette façon-là gérer notre identité et notre présence, qu'on va gérer aussi sur la rapidité qu'on va mettre à répondre à un courrier électronique. Vous avez des gens qui, dès les années 90, moi j'en connais, qui disaient ah non, moi je ne réponds pas au courriel du boulot en dehors du boulot, je suis payé au boulot, et donc à 18h quand je pars, à 18h je pars. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, mais qui n'était pas forcément possible pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, vous avez des logiques de rapport au temps et de rapport aux autres qui vont se transformer. Dans les autres points que je mets à l'intérieur de cette diapo, il y a la notion de portail communautaire, et ça je vais y revenir un petit peu. Et puis le peer-to-peer, là aussi ce sont les réseaux de personne à personne, de pair à pair. Alors qui sont très connus et qui ont défrayé la chronique parce que les industries du disque et du cinéma considèrent que c'est les gens qui sont méchants parce que ils veulent faire mourir tous les artistes les uns après les autres et qu'ils ont décidé de tuer la culture. Mais ce qui moi m'a particulièrement intéressé dans les premières années, les années 90 et début des années 2000 quand on s'intéressait aux réseaux de peer-to-peer, c'est que les réseaux de peer-to-peer c'était aussi des moyens de diffuser la culture à travers la planète, là où je dirais que le système commercial était incapable d'assurer le service. Typiquement, pour quelqu'un qui se retrouvait à l'autre bout du monde et qui était francophone, eh bien, pour accéder à de la musique francophone, pour accéder à du cinéma francophone, il n'y avait pas de moyens raisonnable pour qu'il puisse recevoir un DVD, pour qu'il puisse recevoir des CD ou télécharger de la musique légalement. L'offre diversifiée qui existait, elle existait réellement sur les réseaux sociaux de type réseau de peer-to-peer, d'échange entre personnes. Et ces réseaux, encore aujourd'hui, sont des réseaux qui ont une mémoire de la culture mondiale qui est probablement beaucoup plus importante que celle qu'on trouve dans les boutiques de vente de contenu en ligne. C'est pas toujours de très grande qualité parce que des fois les gens font le boulot eux-mêmes à la main, mais n'empêche qu'on trouve encore des pièces rares qu'on ne trouve pas sur les boutiques parce que sur les boutiques c'est pas rentable. Donc les réseaux de pair à pair ont aussi contribué à faire fonctionner ces logiques de préparer ces logiques de réseaux sociaux. Elle montre aussi que ces réseaux sociaux, ces échanges entre personnes, ces histoires de communauté sur Internet existaient véritablement. Et je reviens sur un logiciel en particulier, celui qui a lancé le peer-to-peer, celui qui s'appelle Napster. Sur le logiciel Napster, vous avez l'ensemble des outils nécessaires à un petit réseau social de base. C'est-à-dire que vous avez un outil d'échange de contenu. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez partager avec les autres et puis vous avez un petit moteur de recherche pour aller fouiller le contenu des répertoires des autres et pouvoir récupérer ce qui vous intéresse. Mais il n'y a pas de ça. Vous avez un pseudo et ce pseudo-là vous permet de vous constituer des groupes d'amis, des gens avec qui vous êtes copains, qui fait que vous pouvez les retrouver dès qu'ils sont en ligne, dès que vous êtes en ligne. vous avez aussi à l'intérieur de Napster un espace de chat. Et l'espace de chat, il va être structuré avec différentes formes de communautés. Alors comme c'est un logiciel au départ essentiellement d'échange de musique, eh bien vous allez avoir tout un tas de communautés qui déclinent des genres musicaux différents. Le pop machin truc, le country bidule, le jazz ceci, le rag cela, etc., etc., le jungle rag rap, etc., etc. Donc vous avez tout un tas de communautés de genres qui existent. Et vous avez aussi des communautés culturelles, c'est-à-dire que vous avez les forums qui sont les forums francophones, vous avez les forums hispanophones, vous avez les forums lusophones, etc. Donc qui font que vous avez comme ça des croisements de communautés, des tuilages de communautés, vous avez des gens qui vont faire les ponts entre les différentes communautés. Ces systèmes fonctionnent bien, et la preuve que cet internet communautaire existe, c'est que lorsque Napster est obligé de fermer suite à une décision de justice américaine, eh bien, il faut approximativement 48 heures à une semaine pour que l'ensemble des utilisateurs de Napster se retrouvent sur d'autres réseaux d'échange de peer-to-peer de façon alternative. Et qui plus est, les communautés qui s'étaient formées sur Napster, les espèces de salons qui existaient, eh bien, dans les salons, vous retrouvez exactement les mêmes personnes. Les guéguerres qu'il y avait entre groupes, elles changent simplement de réseau et on continue à se tailler à coups de bâches, d'insultes et autres verbes un peu relevés d'un groupe à l'autre, et bien sur un autre réseau. Simplement, on a migré de réseau. Mais on a utilisé MSN pour les uns, ICQ pour les autres, les chats ou en dehors de Napster sur lesquels les gens allaient pour dire « Ouais, Napster est tombé, mais sur Nutella, ça se passe ici et ça se passe comme ça. » Et donc, on a un transfert, une automédiation à l'intérieur de la communauté qui va permettre comme ça qu'on ait une migration vers d'autres outils et où les gens vont s'auto-former, s'entreformer à migrer vers d'autres outils. Et ils s'adaptent très rapidement. Donc, c'était peine perdue. Faire tomber un réseau de peer-to-peer, c'était en créer quatre autres. Et vous pouvez continuer aujourd'hui, ça continue de la même façon, c'est que lorsque vous faites tomber un site qui gère du peer-to-peer, ben de toute façon, il en est d'autres à côté. Donc ça, c'est un fonctionnement qui n'est pas encore rentré dans la tête des gens qui gèrent la répression sur ces trucs-là. Mais en attendant, ça se passe comme ça, depuis maintenant une quinzaine d'années. À partir des années 2000, on entre dans la logique qui va voir arriver les réseaux sociaux. Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'on utilisait plein de logiciels. Un logiciel pour faire ceci, un logiciel pour faire cela. Ça allait bien, on était avec un Internet qui n'était pas constitué que de ce qu'on appellerait des gros geeks, mais qui était quand même un Internet avec des gens qui étaient relativement experts et impliqués dans l'utilisation de l'informatique. À partir des années 2000, l'Internet devient un petit peu plus grand public. Et pour les gens, eh bien, ça devient compliqué de faire une page web, créer son site web. Ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'il faut utiliser un logiciel pour créer les pages et un autre logiciel pour les envoyer sur un serveur. Donc on a tout un tas de concepts qui ne sont pas très compliqués quand on se penche un petit peu dessus, mais qui ne sont pas appréhendables instantanément, très rapidement. Donc on a une nécessité de démocratiser les usages et puis de rendre un petit peu moins complexe peut-être la panoplie de logiciels qu'on utilise. Et ce qui à l'intérieur d'Internet va émerger, eh bien, c'est le web. Le web va devenir la porte d'entrée pour tout un tas d'utilisateurs parce que c'est relativement facile à parcourir, à comprendre dans son fonctionnement de départ. Même si on ne comprend pas tout, ça marche rapidement sans qu'on ait besoin de paramétrer quoi que ce soit. Il suffit de cliquer sur des liens et puis on arrive d'un endroit vers un autre endroit. C'est relativement facile à utiliser. Comme on n'est pas producteur d'informations dans un premier temps et qu'on est juste là pour consulter de l'information, ça fonctionne relativement bien. À cette époque-là, c'est aussi le moment où va naître, du coup, par l'intermédiaire de tout un tas de technologies, et je ne reviens pas aussi sur le fait qu'on entre dans une période où on peut rester de façon permanente connecté à Internet, on ne se pose plus la question du temps passé sur Internet, on ne se pose plus la question des débits sur Internet parce qu'on est passé à la DSL. À partir des années 2000, on entre dans les années ADSL, les années haut débit et connexion permanente. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit apparaître le web dynamique. Alors, le web dynamique, c'est cette idée qu'on va avoir des sites web qui permettent aux utilisateurs de produire des contenus en ligne directement sur les sites, au travers de formulaires dans un premier temps, puis avec des interfaces de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles à maîtriser. Le principe, donc, ça va être du coup de créer ces sites qui permettra à des gens de s'inscrire dessus et de partager leur contenu directement sur le site web, où tout le monde peut devenir facilement un éditeur de site web, où tout le monde peut facilement commenter les contributions des uns ou des autres. Il suffit de rajouter un petit formulaire pour que les membres du site ou les gens même pas abonnés au site puissent rajouter des commentaires, etc., etc. Donc, de transférer sur le web, qui était jusque-là avant tout un outil consultatif, eh bien des pratiques qui sont des pratiques de production, d'édition, de partage de contenu qu'on crée ensemble. Sauf que ça, c'est une belle utopie pendant un certain temps, puisque vous avez beaucoup de sites web collaboratifs qui vont naître, utilisant des technologies que j'ai évoquées tout à l'heure, PHP Nuke, SPIP, etc. Donc, qui sont des, ce qu'on va appeler plus tard des CMS, des Content Management Systems, des systèmes de gestion de contenu, donc qui permettent d'être des outils pour créer un site web en ligne directement, qui pourrait se faire à plusieurs. Sauf qu'au début, les communautés, ben, il y a 5-6 personnes qui se disent on va faire un site et puis on va tous mettre un article tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, et puis après toutes les semaines, et puis après tous les mois, etc. etc. Et mon grand-père me racontait comme ça une histoire de, où on prenait une corde et où à chaque fois qu'on le faisait avec sa, avec sa jeune femme, la première année, on faisait un nœud à la corde et on faisait des nœuds à chaque fois qu'on le faisait. Puis la deuxième année, et ben, on s'amusait à défaire les nœuds. Et on voyait que d'une année sur l'autre, il y avait de plus en plus de nœuds qui restaient sur la corde. Eh bien, là, l'idée, c'était de dire que les gens participaient de moins en moins, participaient de moins en moins. Et quand sur un site web, vous avez qu'un seul contributeur, qui est celui qui a créé le site, qui anime le site, qui en... Eh bien, ça ne s'appelle plus un site communautaire, pour moi, ça s'appelle un blog. Je pense que les blogs, ils naissent surtout de la défection, de la difficulté d'avoir plusieurs éditeurs sur un même site, même s'il existait véritablement des journaux en ligne. Mais ça, c'est une autre histoire qui rejoint celle de la mort des CMS. Difficulté de gestion, difficulté d'aller toujours au même endroit, et puis une difficulté majeure qui était la difficulté de s'authentifier. Et ça, c'est un truc qu'on retrouvera. Difficulté de s'authentifier, non pas que c'est compliqué de s'authentifier. Il faut avoir un login, un identifiant donc, plus un mot de passe. Sauf que quand vous êtes sur le site du club de hand, vous en avez un. Quand vous êtes sur le site du boulot, vous en avez un autre. Quand vous êtes sur le site des copains de la classe de l'année dernière, vous en avez encore un. Quand vous êtes sur le site que vous avez créé pour votre club de philatélie, etc., etc., et vous avez une accumulation comme ça de mots de passe dont il faut se rappeler à plein d'endroits, et une gestion d'identité qui devient de plus en plus lourde et de plus en plus compliquée. Et on verra que c'est un des points d'entrée sur lesquels les réseaux sociaux actuels, eh bien, ont réussi à grossir très rapidement. Alors, ceci étant, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui vont réapparaître justement en permettant au travers du web d'unifier un certain nombre de pratiques et d'outils. Alors, il y a quelques précurseurs aux réseaux sociaux. Vous avez aux États-Unis Classmates dès les années 95, et au début des années 2000, vous avez en France Copains d'avant. Donc, dans les deux cas, l'idée, c'est de retrouver des gens avec qui on était en classe. Vous vous rappelez qu'il y avait un chanteur français qui avait fait son succès sur cette idée qu'on se retrouverait dans 10 ans. Eh bien, on est là aussi dans cette logique-là. Et ça tombe bien parce que les internautes qu'on commence à voir sont des trentenaires. Donc, ils sont pile poil dans les 10 ans après leur bac. Et c'est le bon moment où, après leur première crise conjugale, ils envisagent de reconstruire leur vie, et qu'à partir de ce moment-là, ils se rappellent de la copine qu'ils avaient en terminale, qui, elle, se rappelle du copain de première, etc. Donc, ça donne du sens et du contenu à ces sites-là. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais que les réseaux sociaux avaient dépassé les contenus pornographiques, mais peut-être pas tant que ça. En tout cas, bon. Donc, on a ces sites qui vont bien fonctionner, et puis on va avoir des sites qui vont fonctionner de façon un petit peu plus ciblée. Alors je vais passer sur les plateformes de blog parce que ça ne va pas nous intéresser tellement plus que ça, j'y reviendrai juste par petites pointes, mais c'est surtout en 2003 où vous avez, à mon sens, le premier réseau social moderne. Alors, peut-être plus grand monde s'en rappelle, je ne sais pas, s'en rappelle peut-être encore un peu quand même, hein. MySpace. MySpace est donc un site qui est créé en 2003 aux États-Unis et qui est créé au départ par des gens qui veulent faciliter la vie des groupes de musique qui veulent annoncer leurs concerts. Et donc le principe, c'est que chaque groupe de musique qui va s'inscrire sur le site va disposer d'une page, et sur cette page-là, ils vont pouvoir mettre leur date de concert. Sur cette page-là, ils vont pouvoir progressivement avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais ils vont pouvoir se présenter, ils vont pouvoir mettre des photos, et puis ils vont mettre à disposition un petit outil incrusté dans la page qui permet d'écouter, donc qui permet au groupe de déposer de la musique pour que cette musique produite, créée par les groupes, soit écoutée directement en ligne par les personnes. Et s'y rajoutent des fonctionnalités qui vont permettre aux gens de dire qu'ils aiment tel ou tel groupe, qu'ils sont fans de ce groupe-là, et créer de cette façon-là des relations entre différents groupes, des proximités, des liens où on se renvoie nos fans, où on s'admire les uns les autres, où on fait connaître les dates des copains, etc. Donc tout un tas d'outils qui vont permettre de mixer, de rapprocher les informations que les uns produisent en fonction des relations qui sont créées les uns avec les autres. Donc c'est un site qui fonctionne très très bien. Et si vous vous rappelez des années 2000 à, on va dire, 2008, il n'y a pas un artiste musical qui passe sur une radio ou sur une télévision sans que l'animateur lui dise « Vous avez une page MySpace, vous pouvez nous donner le nom de votre page MySpace ». Et qu'on s'appelle Céline Dion ou qu'on s'appelle l'affaire Louis Trio, rest in peace, on va avoir comme ça un partage de nos pages MySpace. La difficulté que va rencontrer MySpace, c'est que MySpace, pour ceux qui s'en rappellent un petit peu ou qui sont allés voir encore quelques pages il n'y a pas si longtemps que ça, MySpace va devenir, à mon sens, le coin du web le plus moche, le plus laid qu'on puisse trouver sur la planète Internet. C'est d'une laideur absolue. On atteint un sommet du kitsch. Et c'est arrivé progressivement dans la vie de MySpace. Parce que le problème de MySpace, c'est que vous avez affaire à des groupes de musique. Et franchement, quand vous êtes un groupe de métal gothique, vous n'avez pas envie d'avoir la même page web que Céline Dion. Ça se tient. À vue de nez, ce que vous avez en commun, c'est que vous faites de la musique. Mais à part ça, déjà, vous n'êtes même pas sûr de partager la même définition du mot musique. Donc, quant à l'univers visuel, quant à l'univers de l'ensemble des références que vous allez vouloir ajouter, etc., etc., c'est pas du tout le même. Donc, ce que va faire MySpace, c'est ce qu'a fait, rappelez-vous, la semaine dernière, le web 3.2. C'est autoriser les gens à pouvoir personnaliser, à donner un peu d'identité à ce qu'ils font. En donnant un peu d'identité à ce qu'ils font, et bien les gens, ils vont créer. Et ça va faire comme le web 3.2. C'est-à-dire que le web 3.2 était particulièrement laid et moche. Mais il avait un intérêt, c'est qu'on reconnaissait la page de machin et la page de truc. Ça devient très fouillon, et c'est sur, je dirais, ce côté fouillon, ce côté bazar, ce côté où on ne s'y retrouve plus, que la nouvelle vague d'arrivants sur Internet, qui là deviennent très nombreux, notamment parce que la téléphonie mobile incite à aller sur Internet. Parce que l'accès à Internet s'est véritablement démocratisé, le prix des box est facile, les ordinateurs est à disposition de plein de personnes. Et donc, on a une nouvelle vague, je dirais, aux alentours de 2005, de nouveaux arrivants. Et un peu après 2005, et surtout vers les années 2010, de nouveaux arrivants sur Internet. Alors vous voyez que pour MySpace est dans le top 5 des sites les plus fréquentés en 2005, après avoir été créé en 2003. Donc ça veut dire que devant MySpace, il y a Google, probablement à l'époque déjà YouTube, il doit y avoir Yahoo et il doit y avoir Wikipédia. Aujourd'hui, MySpace, ils doivent être peut-être encore dans les 30 premiers, j'en suis même pas sûr. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait un autre qui avait pris sa place et que dans l'histoire de MySpace, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2008, Rupert Murdoch, donc le magnat des médias australiens mondiaux, rachète MySpace pour 300 millions. Il le revend en 2010, 35 millions. Belle affaire. Ça vous donne une idée de comment on peut rapidement monter au sommet et se casser la figure très rapidement. Je vais citer un autre réseau aussi dans ce goût-là, hein, qui est monté au sommet en deux temps trois mouvements et qui a complètement disparu. C'est le réseau de Second Life. Second Life, il y en a peut-être quelques-uns. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que Second Life? Ouais. Second Life, c'était un monde en 3D, relativement fluide, où on pouvait créer son avatar et son personnage. Dans Second Life, donc, on avait un costume, on créait vraiment son personnage en 3D, on se baladait à l'intérieur de différents mondes, et dans ces mondes-là, on pouvait acheter des choses, on pouvait aller faire de la musique, on pouvait aller faire des parties, et puis danser avec son avatar et les autres, etc. Il y avait plein de... Et si vous prenez les émissions politiques des années 2005-2006, tous les groupes politiques français, dits de gouvernement, c'est-à-dire ceux qui font la même chose depuis des années, eh bien, ils sont présents sur Second Life. Ils ont une permanence sur Second Life. Il y a une permanence de l'UMP, il y a une permanence du Parti Socialiste sur Second Life. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus personne ne connaît Second Life, où il s'est échangé des millions de dollars chaque jour. Donc, quand je dis que certains autres réseaux peuvent se casser la figure en l'espace de quelques mois, à mon avis, c'est toujours d'actualité. Donc MySpace se casse la figure. Un autre réseau va naître avant qu'il se casse la figure, c'est le réseau Facebook. Alors Facebook réussit justement, à mon sens, c'est l'hypothèse que je formule sur le succès de Facebook, c'est que Facebook va réussir d'un côté parce que tous les outils de la communication dont on a besoin sur le web sont réunis sur une seule et même page. Vous avez, sur votre page Facebook, la possibilité de discuter de façon instantanée, de personne à personne ou au sein de petits groupes, en l'espace de quelques clics. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un logiciel spécial, d'avoir un compte machin, etc., etc. Donc vous avez tous ces trucs-là. L'autre chose particulièrement intéressante sur Facebook, c'est que sur Facebook, il n'y a personne. Ouais, je sais, il y a 1 milliard d'inscrits. Vous connaissez les 1 milliard de personnes sur Facebook? Quand vous êtes sur Facebook, vous connaissez 148 personnes. Et puis c'est tout. Car les autres, ils y sont, ils sont sur le même site que vous, mais vous ne les avez jamais vus. Vous ne les croiserez jamais, vous ne connaissez que vos amis sur Facebook. La réalité, elle est là. Donc, ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que c'est un espace à l'intérieur du web où on connaît bien tous les gens qu'on y fréquente, puisque ce sont nos copains. Et ça ne va pas tellement plus loin que ce réseau-là. Donc on est dans un endroit qui est rassurant. À une époque où on a des nouveaux arrivants sur Internet, qui découvrent un Internet où, entre le site de Google, avec un endroit où il faut rentrer des informations là, le site de France Télécom qui sera sur un autre, le site du copain qui est sous WordPress, qui a une certaine organisation, le site où il faut s'identifier, le site où il ne faut pas s'identifier, le site qui a des couleurs machin. Vous avez un Internet qui est ultra bigarré, avec des modes de fonctionnement qui changent d'une page à l'autre. Eh bien, quand vous êtes un nouvel arrivant, c'est parfaitement perturbant. Alors qu'une fois que vous avez votre compte Facebook, quel que soit le groupe dans lequel vous êtes, c'est zen, c'est cool, tout est au même endroit. C'est les mêmes couleurs. Que vous alliez sur le groupe du trash ou que vous allez sur le groupe de votre club de philatélie, ça sera avec un fond blanc, puis des petites bannières bleues, et puis des mots écrits en blanc sur les fonds bleus, et puis voilà, c'est facile à lire, c'est facile à vivre, et la page est organisée de la même façon partout, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc ça fonctionne très bien pendant un certain temps. Ça permet aux gens de s'y retrouver, et puis de toute façon, comme ce sont de nouveaux arrivants, ils ne sont pas perturbés par le fait que ce soit partout pareil, puisque les autres endroits, ils n'y vont pas. Ils restent dans leur cercle d'amis. L'avantage aussi de Facebook, c'est que ça restreint l'univers informationnel aux informations qui nous intéressent. Mon exemple typique, c'est vous allez sur Google et vous posez une question à Google, une question simple, raconte-moi une blague drôle. Vous avez un doute sur la réponse de Google, franchement, hein, je le sens bien, vous avez un doute. Alors que si vous allez sur votre mur Facebook et que vous écrivez « raconte-moi une blague drôle », eh bien vous êtes à peu près certain, si vous avez vos 148 amis, que d'ici la fin de la journée, peut-être même l'heure suivante, il y aura quelqu'un qui vous aura envoyé une blague drôle avec un lien vers une vidéo où il y a des chatons qui sont accrochés à un ventilateur. Peu importe, ça dépend, ils connaissent votre humour, puisque ce sont vos amis. Vous partagez des valeurs communes, des valeurs humoristiques communes, des valeurs de sensibilité, d'affectivité qui sont communes. Et donc, partant de là, eh bien, effectivement, quand vous cherchez de l'information sur Facebook, vous la trouvez. Parce que cette information-là, elle vous est donnée par des gens qui pensent comme vous, qui sont proches de vous. Et donc, partant de là, eh bien, effectivement, vous n'êtes pas dans une situation d'échec. Vous êtes beaucoup moins submergé que si vous êtes sur le grand Internet, où vous ne savez pas comment faire pour collecter l'information à droite, collecter l'information à gauche. Donc, on va se retrouver avec cette logique-là. Le problème de Facebook, qui se pose à Facebook, est le même qui s'est posé à MySpace. C'est qu'il y a un jour, Coca-Cola aimera bien rappeler qu'il dépense des millions, depuis des années, à faire comprendre aux gens que du blanc et du rouge, ça égale Coca-Cola. Et si on vous dit, vous vous appelez Coca-Cola, mais rien à cirer, c'est du blanc et du bleu, et bien Monsieur Coca-Cola, il est Zala. Et Monsieur Pepsi, il est d'accord avec Monsieur Coca-Cola sur ce truc-là. Il voudrait bien avoir leur page. Alors du coup, Facebook a un petit peu lâché la bride, et maintenant on peut avoir une page qu'on personnalise avec ses propres couleurs. Mais le problème de Facebook est clair, c'est que soit il cède à la nécessité forcée qu'il y aura de créer l'identité, parce que quand il commence à y avoir du monde sur Facebook, ben, il va falloir qu'on sache qu'on est sur la page de Céline Dion et qu'on est sur la page de l'affaire Wistrio. Le même problème va se poser à nouveau. Et donc, il va falloir pouvoir mettre de la distinction entre les deux. Cette distinction, elle va passer notamment par le visuel. Donc, soit Facebook, à un moment donné, lâche sur le visuel, et s'il lâche sur le visuel, il se passera la même chose qui s'est toujours passée. À chaque fois qu'on a lâché sur le visuel, ça sera laid, ça sera moche. Et puis, ça partira de tous les côtés, il y aura des menus à droite, des menus à gauche, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, les gens seront éparpillés. Alors, ça ne veut pas dire après qu'il y aura un successeur à Facebook, que ça ne marchera plus jamais du tout, etc., etc. Mais forcément, ils seront obligés de lâcher la bride sur ce truc-là. C'est mon avis. On verra si je me gourre ou pas. Alors, il en reste pas moins que le réseau Facebook est un réseau qui va effectivement exploser, qui va amener de nouveaux utilisateurs et qui rentre dans une période particulière qui est celle de l'arrivée des réseaux de téléphonie mobile. Alors Facebook, là aussi, hein, faut bien penser qu'on a une vision qui est très franco-française. De la même façon qu'on est persuadé qu'il n'existe qu'un seul moteur de recherche au monde, et que c'est Google, eh bien les Américains placent le moteur de recherche Google en deuxième, voire en troisième position. Ils vont utiliser Yahoo, ils vont utiliser des trucs que nous ne connaissons pas. Ask. Qui utilise Ask ici? Ah, une fois de temps en temps, il y a Ask. Et on est pratiquement persuadé qu'il n'y a qu'un seul moteur de recherche efficace en France. Il s'appelle Google. On adore les trucs monolithiques en France. Et bien, pareil pour les réseaux sociaux. On est persuadé qu'il n'existe qu'un seul réseau social et que ce réseau social s'appelle Facebook. Partout sur la planète, il y a de la concurrence. Notamment, si vous allez dans les pays indiens, l'Inde et le Brésil, ils vont passer par un autre réseau qui s'appelle Orkut. Que les Russes, ils utilisent un réseau qui s'appelle Contact et que tous les Russes sont là-dessus et il n'y a quasiment pas de Russes sur Google. Si vous voulez faire de la publicité pour attirer des Russes dans des stations de sport d'hiver en France, faut pas créer un compte sur Facebook. Ça sert à rien, ils y sont pas. Il faut aller sur Contact. C'est fait pour eux. Renren en Chine, etc., etc. En 2011, vous avez l'apparition d'un nouveau réseau social, qui est en fait, à mon sens, un faux nouveau réseau social, qui est le réseau Google+. Google+, c'est donc un réseau qui est lancé par Google, qui essaye de contrer l'offensive de Facebook. L'offensive de Facebook, ici, elle a pris le devant, et ils se disent qu'ils ont vraiment besoin d'un réseau social, ils ont fait des tentatives sur d'autres trucs et qui n'ont pas marché. Et là, ils ont procédé de façon inverse. C'est-à-dire que plutôt que créer un réseau comme ils avaient essayé de le faire avec notamment Web, où il y a tout à l'intérieur de ce réseau, comme l'a fait Facebook, la messagerie, l'album photo, etc., etc., eh bien, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de fédérer tous les outils qu'ils ont acquis au fil des années. Puisque Google, on sait, c'est le moteur de recherche. Mais ce qu'on sait à peu près, c'est que c'est aussi la messagerie avec Gmail. Ce qu'on sait un peu, c'est que éventuellement, ils ont racheté un très gros site de diffusion de vidéos, YouTube. Que derrière ça, ils ont racheté aussi un site de partage de photos, Picasa. Ils ont racheté un site aussi, donc il y avait le partage de photos, ils avaient des sites pour faire du partage de vidéos, ce qu'on appelait Hangout. Et donc ils avaient plein de technologies, plein de choses, et ils se sont dit, eh bien on va tout rassembler. Alors jusque-là, ils le faisaient, ils l'avaient déjà tout rassemblé ce réseau, puisque Google avait créé par l'intermédiaire de Gmail un truc très pratique, c'était d'être un tiers d'authentification. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tiers d'authentification? Ce que Facebook a développé aussi, et ce que Twitter a développé aussi. De son côté, je reviendrai sur Twitter après. Le tiers d'authentification, c'est cette idée qu'on va se servir de notre compte, par exemple Gmail, pour s'identifier sur Picasa. Donc, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte sur Picasa, vous arrivez sur Picasa, vous vous servez de vos identifiants Gmail. La semaine dernière, j'avais défini ce que c'était qu'une API. Donc, un système qui permet à un site de communiquer avec un autre site des informations, de mutualiser des informations avec des technologies qui sont partagées, eh bien, Facebook, comme Google, comme Twitter, mettent à disposition des créateurs de sites une API leur permettant de créer des nouveaux comptes utilisateurs sans les créer pour de vrai, puisque les utilisateurs utilisent le compte qu'ils auraient chez l'un de ces trois prestataires dont j'ai parlé pour s'identifier sur ces sites-là. Ce qui facilite la vie des gens, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que la galère, c'était de dire, ben, quand j'arrive sur le site machin, il faut que je me crée un identifiant, et là, il faut que je m'en crée un autre, et là, il faut que je m'en crée un autre. Donc, on fonctionne de cette façon-là. Et bien, Google avait fortement travaillé ce truc-là, et d'une part, ils avaient permis à n'importe quel site d'utiliser les comptes Gmail pour créer des nouveaux identifiants, mais ils avaient eux-mêmes fédéré ces identifications-là, permettant du coup, eh bien, de naviguer sur tous ces sites-là. Qu'ils avaient maintenu pendant des années, jusqu'en 2011, c'était que chaque outil de Google avait sa propre identité. Si vous alliez sur YouTube, il y avait une identité visuelle qui était YouTube. Si vous alliez sur Picasa, il y avait une identité visuelle qui était Picasa. Et à mon sens, je ne suis pas certain qu'ils aient tout à fait joué le bon coup en essayant de tout normaliser, de tout standardiser aux couleurs de Google+. Qui reprennent les couleurs de Google, mais qui tentent de créer une interface qui est unifiée. Or, je ne suis pas persuadé personnellement que ce soit une bonne idée d'essayer de rapprocher toutes les interfaces des différents outils de Google, parce que quand on regarde de la vidéo ou quand on va faire un partage de vidéo, ce n'est pas la même chose que lorsque on fait du courrier électronique avec son Gmail. Et donc, que d'essayer d'avoir la même interface avec des lieux communs entre toutes ces interfaces-là, ça ne nous facilite pas la vie. Soit ça surcharge à des endroits où on n'en avait pas besoin, soit au contraire, on a de la perte à d'autres endroits. Et puis à côté de ça, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est celle qui avait fait fuir un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas aller sur Facebook. C'est une situation d'omniprésence, de sollicitation permanente de l'ensemble du réseau Google sur quoi que vous fassiez. Et pour que les gens s'en servent, Google s'est aussi débrouillé pour ne plus vous donner le choix. Je reprends un exemple, c'est l'exemple par exemple des fameux Hangouts. Donc Hangout, c'était une technologie permettant de faire, sans installer de trucs très particuliers sur son ordinateur, de faire des visioconférences à plusieurs, donc de se créer un petit salon et puis de discuter en visuel et puis en partageant des documents en direct, etc., etc. Il suffisait de donner l'adresse du Hangout pour que les gens aillent se connecter dessus sans avoir besoin d'un identifiant particulier. À partir du moment où Google Plus est né, Google a imposé que chaque utilisateur voulant se connecter sur un Hangout ait un compte Google Plus. Et à partir du moment où vous avez un compte Google Plus, ça veut dire que vous associez votre compte Gmail à Google Plus, ça veut dire que vous associez votre compte YouTube à Google Plus, et donc tout ce que vous faites sur l'un est connu sur ce que vous faites sur l'autre. Et vous avez comme ça un mélange relativement confus, à mon sens, de ce qui se passe sur un réseau et sur l'autre. N'empêche que Google profite d'un truc, c'est d'avoir développé un système qui est utilisé sur de plus en plus de téléphones mobiles et de smartphones, le système Android. Et le système Android est un système donc qui permet de gérer le web et tout un tas d'applications sur un téléphone mobile. C'est un système qui est créé par Google, qui est mis à disposition de Google pour tous les fabricants de téléphones qui veulent s'en servir et veulent l'implémenter à l'intérieur de leur téléphone, en même temps qu'ils l'implémentent. Ce qu'ils vont implémenter, ce sont les outils de réseautage social de Google, et notamment l'accès au Google Store, l'endroit où on va récupérer des nouvelles applications, gratuitement ou pas, mais qui nécessitera que vous ayez un compte Google. Et à partir du moment où vous avez votre compte Gmail, vous avez toutes les autres sollicitations qui vont venir avec systématiquement à chaque fois que vous y êtes. Donc, comme Android devient aujourd'hui le système majoritaire sur les smartphones, vous voyez que du coup, effectivement, Google a un réseau qui aujourd'hui atteint le milliard d'inscrits. Parce que de toute façon, si vous voulez avoir une application nouvelle sur un système Android, vous êtes obligé de vous créer un compte Gmail. Donc, on a tout un tas d'adhésions qui ne sont pas des adhésions de connivence, mais qui sont des adhésions obligatoires, contraintes, forcées. Ce que vous auriez chez d'autres opérateurs. Je parle rapidement du microblogging. Donc Twitter, qui est un réseau de mini-messages, donc ce qu'on appellera le microblogging en anglais. La particularité du réseau donc Twitter, c'est de permettre à des gens d'échanger et de diffuser des messages de 140 à 160 caractères. Alors pourquoi 140 caractères en vérité? Parce qu'un SMS compte 160 emplacements par défaut, dans une espèce de norme internationale. Ce qui veut dire que si vous autorisez des utilisateurs à créer des messages de 140 caractères, vous, en tant que prestataire de service, il vous reste 20 caractères pour un jour les exploiter, à mettre par exemple un lien publicitaire. Eh ouais. L'avantage aussi, c'est que du coup, on a des mini-messages qui circulent sur Internet et qui vont facilement aussi circuler sous forme de SMS, qui sont au format des SMS et qui sont au départ taillés pour être installés sur les smartphones. Donc, vous avez des gens qui consultent Twitter sur le web, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui vont consulter Twitter directement sur leur téléphone. Alors, la difficulté, c'est que Twitter, aujourd'hui, c'est un réseau qui n'a pas forcément une reconnaissance d'usage, à mon sens, qui est bien arrêtée. Il y a des gens qui ont très bien compris comment ça fonctionnait, et selon moi, Twitter reste, d'une certaine manière, ce que j'appellerais l'AFP du pauvre. L'AFP du pauvre, parce que c'est un système qui permet de se connecter à différentes sources d'informations sur Internet et de recevoir directement toutes les dépêches que vont produire les différentes personnes. Mais d'autres personnes se servent malgré tout de Twitter comme un espèce de réseau de messagerie instantanée, plus ou moins fermée. Il y en a qui vont protéger les messages qu'ils vont envoyer, et puis il y en a d'autres qui vont vous envoyer des messages qui sont quasiment à caractère personnel, qui a priori ne ciblent que leur réseau de suiveurs, mais qui peuvent être lus par toute la planète, où vous avez des trucs tout aussi intéressants que du style « Je suis arrivé au boulot et il n'y a plus de café ». Nice. Donc, Le principe ici, par contre, c'est qu'on fonctionne sur une logique de follower. Follower, c'est-à-dire de suiveurs, de gens qui suivent. Et l'intérêt, entre guillemets, sur Twitter, ça va être effectivement d'avoir un réseau qui permet de diffuser rapidement de l'information, qui peut être retweetée, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un la reçoit et trouve qu'elle est intéressante, eh bien, il la fait rebondir sur l'ensemble de son réseau pour, de cette façon-là, faire circuler très rapidement l'information. Alors, ça a été utilisé au départ Twitter dès les années 90-2000 aux États-Unis par les mouvements alternatifs. C'est un peu comme ça que Twitter est né. Les mouvements alternatifs qui se servaient de Twitter pour se repositionner pendant les manifestations et qui permettaient d'utiliser à ce moment-là les téléphones pour avoir de façon très rapide la position de la police et la position des copains et puis savoir où il fallait aller pour essayer de contourner les uns, de contourner les autres. Et puis, on s'est retrouvé avec un système qui aujourd'hui est un système qui est très tendance dans l'univers journalistique. Et je pense qu'il est beaucoup plus tendance dans l'univers journalistique que dans l'univers quotidien. Je ne sais pas, à titre comme ça pour voir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des comptes Twitter ? Voilà. Donc, on voit qu'il y a, somme toute, peu de personnes qui ont un compte Twitter. Mais vous avez eu l'impression, lors des dernières soirées électorales, que tout ce qui s'était dit d'important, tout ce qui s'était fait d'important, que toutes les réactions dont il fallait tenir compte du point de vue des électeurs, c'était ce qui avait circulé sur Twitter. 3% de la population ici présente. Et vous êtes une population hyper équipée par rapport à celle qui nous entoure. Donc, vous voyez l'impact. Mais Twitter, ça parle aux journalistes. Twitter, ça parle aux journalistes, parce qu'effectivement, on est sur le modèle de l'AFP. On est sur un modèle de réception de câbles qu'on va réutiliser et sur un modèle qui, bon an mal an, ça leur plaira ou pas, mais est proche de la rumeur et permet de véhiculer facilement des rumeurs, de prendre la température facilement de ce qui, dans le microcosme, est en train de faire écho et qu'est-ce qu'il faut suivre. On est véritablement dans cette logique de suivre des informations. L'autre truc qui, moi, me paraît, que j'aime pas, par exemple, dans ce type de réseau, c'est l'utilisation des liens courts. Alors ça, l'utilisation des liens courts, c'est un truc, là aussi, les gens qui pratiquent Twitter voient à peu près ce que ça veut dire. C'est que, aujourd'hui, vous avez vu qu'une adresse web pour une page web, des fois, c'est très, 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 très long. Et quand vous avez 140 caractères, si on doit mettre une adresse web à l'intérieur de son mini-message, et bien des fois, les 140 caractères, ils sont pratiquement bouffés uniquement par l'adresse web elle-même. Il y a donc des sites qui se sont créés qui permettent de raccourcir n'importe quelle adresse web en donnant une autre adresse qui n'a aucun sens, parce que ça va être bit.ly et puis /6525E7. C'est un chiffre qui n'a aucun sens comme ça, mais qui permet d'être mis en connexion avec une adresse qui est plus longue. Donc du coup, ça prend peu de place à l'intérieur d'un message de Twitter, mais les vieux de la vieille comme moi, ce qu'ils leur reprocheront, c'est qu'effectivement, ces liens courts, eh bien, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils vous emmènent. Et tant que vous n'avez pas cliqué sur le lien, vous ne savez pas ce qu'on vous propose d'aller voir. Vous êtes obligé de cliquer pour savoir. Alors que si vous avez l'adresse du site web, eh bien, vous pouvez savoir qu'on va vous envoyer sur un site gouvernemental ou pas, qu'on va vous envoyer sur un site de presse ou pas, qu'on va vous envoyer sur un blog ou pas. Une éducation à la lecture de l'adresse, mais vous avez très bien appris à lire les adresses qui vous permettent de vous rendre chez vos amis quand vous êtes dans une ville. Même si aujourd'hui, on essaye de vous faire perdre tout cet apprentissage-là avec des appareils qu'on appelle des GPS. Attendez que le satellite américain tombe en panne. Et il y a des gens qui n'arriveront pas à rentrer chez eux. Et ils le feront, les Américains, parce que comme ça, ils pourront nous attaquer en toute tranquillité.
Et en même temps, ça peut imposer d'aller sur un fake, là. Des trucs,
oui.
Hein. Il y a pas longtemps, on a reçu un mail, c'était marqué France-SFR. Et ça nous disait qu'on pouvait acheter un iPhone pour 50 euros. Et mon mari l'a cru, et je lui dis regarde l'adresse, c'est pas SFR, c'est un truc France-SFR, machin chouette. En voyant l'adresse, on peut détecter que c'est...
C'est clair, quand on voit le mot iPhone aussi. Alors, je passerai rapidement sur un truc malgré tout que j'évoque, c'est le partage de photos. En 2003, vous avez un site qui est né qui s'appelait Flickr. Je vous ai dit la semaine dernière que je le haïssais pour un certain nombre de changements qu'il avait effectués pour s'adapter au nouveau device. Picasa, je vous ai dit ce qu'il en était advenu. Il y a un autre site qui avait été racheté par Google qui s'appelait Panoramio et qui permettait aux gens de partager des photos sur les cartes. Et donc, comme ça, vous prenez une photo pendant vos vacances et vous pouvez aller la poser, ce qui permettait comme ça d'avoir des vues du monde avant que la Google Car soit passée dans le quartier. Et puis, depuis les années 2010, vous avez trois sites qui ont pris de l'élan et qui sont associés à des réseaux sociaux. Un site qui s'appelle Instagram. Plus exactement, Instagram, c'est une application. Donc, c'est un truc qu'on met sur les smartphones. Je reviendrai dessus après. Vous avez Tumblr. Alors, Tumblr, c'est à la photographie ce que Twitter est au mini-message. Donc, Tumblr, c'est un truc qui permet de partager auprès de ses suiveurs essentiellement et d'abord, avant tout, des photos. Donc, c'est un réseau qui est parti sur l'idée de partager une photo très rapidement, très facilement entre ses amis. Et vous avez une suite, entre guillemets, à Tumblr, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, qui s'appelle Snapshot, qui est l'application tendance du moment, puisque le principe de Snapshot, c'est que vous prenez une photo et vous envoyez un lien vers cette photo, mais la photo est autodestructible. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Mission Impossible. Vous la regardez et puis, fouit, elle disparaît quelques secondes après. Vous pouvez la voir qu'une fois et elle disparaît. C'est censé permettre comme ça de partager des photos dont on ne veut pas qu'elles soient diffusées et rediffusées, donc des photos intimes ou des photos de trucs qu'on ne veut pas qu'on sache que c'est nous qui avons fait savoir que ce truc-là existait. Bon, il en reste pas moins que, je le dis toujours, quoi que ce soit qu'on entende sur un téléphone ou un ordinateur ou qu'on voit sur un ordinateur ou un téléphone, ben, si on l'a vu une fois, on a pu le photographier en même temps qu'on l'a vu. Donc de toute façon, il y a moyen. Et puis le site Snapshot s'est fait hacker une partie de son système et donc il y a des gens qui ont été capables d'aller voir les photos avant que d'autres les voient. Mais je reviens sur un autre réseau, c'est celui d'Instagram. Donc Instagram, depuis plusieurs mois, je critique méchamment ce site. Parce que je trouve que c'est un site qui est ringard et réactionnaire. Puisque le principe d'Instagram, c'est de vous permettre de faire des photos avec votre smartphone. Et quand vous avez pris la photo, eh bien, vous allez pouvoir très facilement appliquer sur la photo un effet et diffuser cette photo à vos amis. Donc vous avez des photos qui ont l'air d'être jolies. Les particularités des photos qui sont faites comme ça, eh bien, c'est que ce sont des photos carrées. Et puis, ce sont des photos sur lesquelles on applique des effets qui sont, je dirais, vintage, années 70. Ça ressemble à des polaroïdes, ça ressemble à des photos qui ont commencé à prendre le soleil depuis un moment et qui commencent à avoir vieilli, à avoir jauni, à avoir tourné, dont les couleurs ont changé. L'avantage d'Instagram, quand ils font ça, c'est qu'on a tout de suite l'impression que la photo, elle a quelque chose d'artistique. Mais effectivement, à mon sens, c'est parce qu'on est parti sur des principes qui font qu'on élimine tout travail de cadrage. On fait un truc qui est carré. Ça, vous aurez remarqué, faites une photo carrée, vous avez toujours l'impression que c'est un truc d'artiste. Parce que dans une photo carrée, soit c'est bien centré, auquel cas vous avez fait du joli boulot à minima, et si c'est pas cadré, et bien vous créez une dynamique dans la photo. Donc, vous allez créer du mouvement dans un truc qui est... Et puis, on utilise les effets des années 70 parce que de toute façon, les gens qui utilisent actuellement Instagram sont des gens qui sont effectivement entre 25 et 35 ans. Et ce que ça rappelle aux gens qui ont entre 25 et 35 ans, eh bien, ce sont les photos qu'il y a dans les albums de leurs grands-parents. Alors, je fais de la psychologie à deux balles, mais ça veut dire que de cette façon-là, on dépasse le deep, puisqu'on ne fait pas référence aux photos des parents, qui seraient celles des années 90, qui sont assez pourries avec les cols à jabot et puis les permanentes à la dynastie et à la Dallas. Mais, et on va choisir les photos des années 70, parce que les photos des années 70, effectivement, ce sont les photos qu'on a trouvées dans les albums de papy et de mamie. Et ça parle, à des gens qui sont effectivement non plus en phase d'innovation, parce qu'entre 25 et 35 ans, vous avez plein de gens qui sont malheureusement, ou qui sont heureusement, vous choisirez, hein, c'est vous qui mettez la nature morale qu'il faut donner à mon propos, mais qui sont en phase de composition familiale, qui sont en phase de trouver un emploi stable, qui sont en phase de s'engager dans un crédit relativement long pour payer un appartement, une maison, etc. Et donc, ils n'ont pas besoin de se mettre en danger, ils ont besoin de choses qui sont rassurantes. Et donc Instagram est rassurant puisqu'on réussit à chaque fois les photos du bon temps de chez mamie et chez papy. Que du bonheur, ça vaut que ça. Hein. Donc les réseaux sociaux, ben, vous voyez qu'ils ont cette croissance et puis un truc qui ralentit. Ces schémas, il faut toujours les prendre avec un minimum de recul parce que ben, il suffit qu'on change l'échelle à 2-3 endroits. Et puis on a l'impression que ça grimpe beaucoup moins vite. Mais vous voyez bien quand même cette espèce de croissance de Google qui, à mon sens, est quand même une croissance particulièrement artificielle. Puisqu'à partir du moment où vous avez un compte Gmail, ben Google dit que vous êtes sur Google+. Allez hop, comme ça c'est fait. Donc voilà, et nous avons un bon réseau social en France puisque nous avons tous la même carte d'identité. Donc la carte d'identité est un très très bon réseau social. On a tous adhéré. Les réseaux professionnels, c'est des réseaux sociaux qui sont apparus depuis quelques années et qui sont censés donc faciliter la recherche d'emploi et la mobilité professionnelle. Et ben, vous aurez remarqué quand même que ces réseaux se portent peut-être pas si bien que ça. En apparence, ils se portent plutôt pas mal puisque vous avez tous les jours des gens qui vous sollicitent et puis ceux qui vous avaient sollicité il y a 2-3 ans pour faire partie de Facebook, ils remettent le couleuvre vert avec Viadeo et LinkedIn. Donc, je ne suis pas convaincu par contre que ça fonctionne parce que je me demande où effectivement ils vont réussir à faire l'équation économique qu'il y a derrière la mise en place de ces réseaux-là. Parce qu'il faut bien qu'ils finissent par gagner de l'argent quelque part. Un des modèles, c'est de gagner de l'argent sur les abonnements plus que sur la publicité. Parce que c'est difficile sur un réseau professionnel de faire de la publicité, et en particulier de la publicité ciblée, parce que vous risquez eh bien, de faire de la publicité pour des marques qui sont concurrentes à la marque pour laquelle vous travaillez, ou des choses de ce type-là. Donc, et puis ça ne fait pas très pro d'avoir de la pub éventuellement de partout. Donc il y a une part qui est liée sur la difficulté d'aller sur le modèle publicitaire, que ensuite vous avez des modèles qui font qu'on est dans des modèles culturels. Alors en France, on a vu que Viadeo semblait bien démarrer, mais aujourd'hui, il me semble que Viadeo est en train de se faire manger en France par le réseau qui est le plus installé internationalement, qui est LinkedIn. Mais en même temps, je vois que chez LinkedIn, de plus en plus, ils libéralisent un certain nombre d'utilisations de fonctionnalités et où on va avoir un mois où on va être en VIP pour pouvoir tester les fonctionnalités VIP, parce que je pense en vérité que derrière ils ont un petit peu du mal à faire rentrer les sous qui vont bien pour que ce genre de réseau puisse fonctionner. Parce que c'est le vrai problème de ces réseaux-là, et je passerai sur la partie vidéo ici pour aller un petit peu plus loin, c'est que si effectivement on a des intérêts avec les réseaux sociaux qui sont évidents, ils permettent une facilité d'utilisation pour partager, ils permettent de faire une veille collective, d'avoir une communication horizontale et de faciliter un certain nombre de choses, eh ben, il en reste pas moins qu'ils ont besoin de s'appuyer sur un modèle économique. Et les modèles économiques aujourd'hui, ils reposent un petit peu sur la publicité, ils reposent probablement et plus sûrement sur l'exploitation des données collectées, et donc de se servir de toutes les traces que les utilisateurs vont laisser sur ces sites-là pour soit les exploiter directement afin de générer de la publicité ciblée, soit de les utiliser indirectement, notamment en revendant ces données à d'autres sociétés pour qu'elles les exploitent directement ou indirectement en termes de marketing, soit pour définir de nouveaux produits, soit pour identifier des cibles potentielles et puis organiser des campagnes d'information ciblées. Ces exploitations des données, vous n'y échappez pas quand vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que la plupart du temps, vous ne lisez pas l'ensemble des conditions générales d'utilisation qui vous disent que vous acceptez que vos données soient revendues à des tiers ou que certaines données ne soient pas revendues à des tiers, mais c'est suffisamment confus pour la plupart d'entre nous pour qu'on ne sache pas comment s'en tirer. la plupart des sites de réseaux sociaux sont condamnés par la CNIL ou par des autorités européennes, mais ça ne les empêche pas de continuer. Et puis, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand vous êtes un magasin et qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit d'ouvrir le dimanche, si vous faites un chiffre d'affaires supérieur à l'amende, eh ben, de toute façon, vous continuez à ouvrir le dimanche. Donc exploitation des données. Il pourrait y avoir le modèle des abonnements. Ce modèle des abonnements fonctionne assez peu aujourd'hui, à part dans certaines communautés très fermées qui savent que c'est leur moyen de survie et de valider un modèle qui leur va bien. Mais si vous mettez des abonnements sur Facebook, je suis à peu près persuadé que vous mettez l'abonnement à 1 euro sur Facebook, Facebook perd à peu près 50 à 70% de ses utilisateurs en l'espace de quelques semaines. Ensuite, il y a l'idée d'avoir des logiques qui sont liées à la fidélisation commerciale. Donc, vous utilisez le réseau et on va vous donner des points concours, des cartes entre guillemets de fidélité, d'une manière ou d'une autre, pour que vous alliez lier chez les mêmes enseignes et que ces enseignes-là, en échange, rétribuent les réseaux sociaux. Ça se passe notamment sur des trucs culturels, hein. J'ai mis sponsoring gouvernemental. Alors le point d'interrogation est parti, mais c'est cette idée que est-ce que certains réseaux sociaux ne sont pas soutenus par des fonds gouvernementaux, puisque la CIA et la NSA n'ont jamais eu autant d'informations sur les personnes que grâce aux réseaux sociaux comme Facebook. Pour ceux qui ont regardé, qui ont vu le film La vie des autres, vous avez vu comment c'était compliqué pour les services secrets de la Stasi et compagnie d'espionner les gens. Quand on voulait savoir qui étaient leurs petites amies, etc., et leur statut et tout ce qu'on voulait, c'était super compliqué, alors que depuis Facebook, c'est vachement moins compliqué puisque les gens se chargent eux-mêmes de donner les données à ceux qui veulent les collecter. Et même s'ils essayent d'éviter les choses, on est quand même dans une logique où les gens aujourd'hui ne savent pas quelles sont les données qu'on peut retenir sur eux. Et pour faire simple, aujourd'hui, on peut vous identifier sans que vous ayez un compte sur un réseau social. On peut vous identifier à peu près 1 sur 30 à 50 millions de personnes, en ayant 1 à 30 millions de chances de ne pas se gourer, uniquement avec la visite que vous ferez d'une seule page web. On saura où vous habitez, on saura quel navigateur vous utilisez, on saura quel système d'exploitation vous utilisez, on saura la taille de votre écran, on sait donc à quel endroit vous connectez à quelques centaines de mètres près. Et donc on va pouvoir profiler votre ordinateur comme étant unique sur 30 à 50 millions d'autres ordinateurs. Et à partir de ce moment-là, il suffit d'avoir votre profil sur une base de données sur n'importe quel autre site pour savoir et vous suivre à partir de votre ordinateur, de votre navigateur, sur n'importe quelle page où vous êtes. Je vais vous donner éventuellement 2-3 petits trucs pour échapper à ce genre de tracking, si vous avez envie d'y échapper. Les risques et les dangers, c'est que identité et confidentialité des données personnelles, ça devient quasiment ingérable. Ces réseaux sociaux savent à peu près tout de vous. Aujourd'hui, lorsque vous vous connectez sur Google avec votre compte de messagerie, vous ne pensez pas forcément à le déconnecter lorsque vous quittez le navigateur. Et lorsque vous quittez le navigateur, même quand vous vous déconnectez, la personne qui utilisera le navigateur après vous saura que vous avez un compte Google et que vous vous y êtes connecté. J'ai chopé ma fille comme ça l'autre fois parce que j'ai vu que sur mon ordinateur compte qui existait. Ça traînait. Donc, si elle ne le déconnecte pas, ils essayent tellement de laisser en place des technologies persistantes que je vais pouvoir aller fouiller toute sa messagerie en 2 temps 3 mouvements, parce qu'elle aura forcément un jour oublié de se déconnecter juste parce qu'elle est allée commenter une vidéo sur YouTube. Et à partir de la vidéo qu'elle aura commentée sur YouTube, si elle ne s'est pas déconnectée de son compte, je pourrai aller voir tout ce qu'elle fait avec son compte Google. Je ne veux pas savoir maintenant. C'est l'univers des rumeurs. On est quand même dans une logique de diffusion à fond les manettes. Qu'il y a des gens qui revendiquent qu'il faudrait développer un droit à l'oubli. Moi, je pense qu'il faut oublier le droit à l'oubli, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut autoriser, ce qu'il faut développer et défendre, à mon sens, c'est le droit au présent. Le droit au présent, c'est un droit qui dirait « Oui, j'ai fumé un pétard quand j'avais 18 ans. » Eh bien, j'avais 18 ans, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne peut pas me demander de me rendre coupable aujourd'hui pour un truc que j'ai fait il y a 20 ans. Donc, ce qui compte, c'est ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et encore, moi, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Je n'avais pas fait le calcul. Bon, alors du coup, je vais essayer de continuer sur le rêve. Putain, j'avais pris un coup moral, là. Ce sont les endroits de rêve pour l'ingénierie sociale. Ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est collecter de l'information auprès des personnes pour pouvoir ensuite avoir des activités malveillantes à leur endroit. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose comme 25% des cambriolages aux États-Unis sont réalisés grâce aux réseaux sociaux. Et ouais, parce que quand vous avez quelqu'un qui annonce sur sa page « Ah, papa et maman m'ont fait la surprise, on part une semaine à Disneyland Paris !» Yes ! Un appartement de dispo. Ensuite de quoi, c'est aussi au service des prédateurs, donc ça ce sont les personnes qui essayent de se faire passer pour d'autres et qui jouent à être des enfants, à être des adultes, à être des femmes ou à être des hommes selon qui est-ce qu'ils veulent embobiner d'une manière ou d'une autre. Quand on est derrière l'écran, eh ben, on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un qui sait bien jouer son rôle eh ben, peut facilement avoir les autres. Harcèlement commercial, j'évoquais, infobésité aussi. Alors on peut difficilement ne pas évoquer l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, donc, c'est le nom de cet informaticien américain qui, il y a un peu plus d'un an, a quitté les services secrets américains. Il était donc employé consultant pour la NSA et la CIA, donc des agences de renseignement américains. Et il a donné des informations, plus exactement, il a donné des milliers de documents au Guardian et puis au Washington Post, qui ont valu d'ailleurs à leurs journalistes ces jours-ci, vous avez peut-être entendu d'avoir le prix Pulitzer, donc qui ont permis de savoir ce qu'on soupçonnait, mais d'avoir des informations concrètes sur ce qu'on soupçonnait, que les États-Unis et leurs alliés, mais les États-Unis en tête et leurs agences en particulier, eh bien faisaient une écoute quasi systématique de quasiment toutes les conversations qu'ils pouvaient choper sur Internet. Et qu'ils ont mis en place un ensemble de systèmes et de dispositifs permettant de traquer les personnes sur leurs activités numériques, téléphoniques, médiatiques en général, à chaque fois qu'ils utilisent un outil électronique. Alors, c'est pas complètement nouveau, hein. Déjà dans les années 90, il y avait des systèmes d'écoute à grande échelle qui étaient développés. Mais là, on est dans des trucs sans précédent et on ne sait pas qui récolte quoi, pendant combien de temps, etc. Donc le gouvernement américain n'arrête pas de raconter que peut-être pas tant de choses que ça, qu'ils vont lâcher sur... Mais n'empêche que systématiquement, en gros, il faut se dire que tout ce qu'on envoie peut potentiellement être écouté et entendu. Alors on parle des États-Unis assez facilement. Mais il n'y a pas que, hein, je veux dire, les Français sont assez forts, on est même plutôt très forts, et c'est notamment nous qui avons aidé le colonel Kadhafi à se servir des réseaux sociaux pour organiser la répression. Puisque ce qui est bien sur un réseau social, c'est que quand vous dites « rendez-vous à tel endroit pour faire une manifestation », eh bien les services secrets font aussi partie de vos amis et sont capables de vous attendre. Donc que vous soyez en Syrie ou que vous soyez ailleurs, eh bien, vous avez des gens qui ont probablement vendu des systèmes de surveillance globale, comme le système Amesis, donc vendu par la France, enfin la société Amesis en France, qui a vendu des systèmes de ce type-là à la Libye, permettant d'écouter aussi bien Twitter qu'Internet, que la téléphonie mobile, etc., etc., pour comme ça savoir comment les gens s'organisaient, où est-ce qu'ils s'organisaient. Là encore, des gros avantages des réseaux sociaux fermés, propriétaires, qui sont capturés par des gens. Comment se protéger? Eh bien, il y a un site, alors qu'on peut pas visiter ici, mais que je vous recommande. Vous voyez pas tout le. Vous avez l'essentiel de l'adresse. Donc, le site qui s'appelle Prism Break. Donc, ce site-là, lorsque vous arrivez dessus, il sera probablement en anglais. Vous descendez dans le bas de la page et vous pouvez choisir la langue et vous aurez le basque, le français et d'autres langues. Et il vous proposera, selon le type de technologie que vous utilisez, un ensemble de technologies alternatives permettant de choisir des solutions permettant de protéger votre vie personnelle. Ça va de savoir comment on fait pour crypter les messages qu'on envoie avec son logiciel de courrier électronique, de choisir un logiciel de courrier électronique qui vous permet éventuellement de crypter vos messages. Et quand on dit décrypter, c'est décrypter de façon assez puissante. Donc ça ne veut pas dire que les Américains n'arriveront pas à les décrypter, mais si nous étions 40 millions d'utilisateurs à crypter tous nos messages de cette façon-là, je peux vous garantir qu'ils pourraient chauffer un paquet de bleds avec les ordinateurs qui tourneraient derrière pour essayer de décrypter tout ça. Donc il y a des technologies comme ça, il y a des technologies qui permettent d'utiliser, enfin qui conseillent d'utiliser des navigateurs web qui sont plus respectueux de vos pratiques, parce que quand vous utilisez un navigateur comme Chrome, eh ben Chrome, il balance tout un tas d'informations à l'ami Google. Donc voilà, c'est plus rapide avec Chrome, mais avec Chrome, eh ben vous donnez un certain nombre d'informations. C'est valable pour d'autres navigateurs aussi, hein. Donc vous allez avoir tout un tas de technologies de ce type-là. Et aussi comment avoir créer ces petits réseaux sociaux à soi entre copains qui font qu'on ne peut pas du tout savoir ce que vous échangez, ce que vous partagez en messagerie, etc. Je pense à un petit outil comme ça qui est quand même pour des gens un petit peu aguerris, mais pas que, qui s'appelle RetroShare. Et donc RetroShare, c'est un logiciel qui vous permet de créer une communauté entre personnes qui se connaissent, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des clés cryptées. Et ça, vous pouvez les échanger de personne à personne pour être sûr de savoir à qui vous le donnez. Normalement, les clés cryptées, on ne se les échange pas par mail, puisque le mail est suspect. Mais dans un premier temps, on se les échange de personne à personne. Vous avez des groupes d'informaticiens qui organisent des crypto-parties ou des parties d'échange de clés pour se voir en vrai, parce qu'ils échangent les clés et pas se les échanger par Internet. Ils sont un peu parano, mais ils ont peut-être pas complètement tort.
Oui. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que toutes les informations, elles allaient dans ce qu'on appelle justement les nuages, les clouds, et que à partir de là, comme ça ne nous appartient pas, c'est bon, on peut les trouver.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que là, on ne pourrait pas les trouver? Parce que c'était un parti aussi dans quelque part.
Alors, dans les différentes solutions alternatives, là j'en ai cité quelques-unes. Alors effectivement, un des trucs qui permet de savoir le plus de choses sur nos pratiques, c'est d'utiliser justement, effectivement, c'est ce qu'on appelle ces technologies dans les nuages, c'est le cloud computing, qui font que, effectivement, on a un compte Google Doc, parce que c'est plus facile pour taper du courrier, y avoir accès, taper un document, y avoir accès à le partager avec des gens. Ce que va proposer Prism Break, c'est des solutions alternatives qui disent que, non, si vous voulez faire ce truc-là, vous n'allez pas le faire chez Google, vous allez le faire chez quelqu'un d'autre. Vous allez le faire sur par exemple un truc qui s'appelle framapad.org. Framapad.org vous permet d'avoir un document partagé à plusieurs. Alors là, il n'est pas forcément crypté, mais ce qu'on sait, c'est que les gens de Framasoft qui mettent à disposition le Framapad ne collectent pas les données sur vous, ne les exploitent pas, ne les distribuent pas. Donc vous pouvez créer librement un truc, faire votre boulot, et puis au bout d'un moment, vous pouvez soit avoir décidé qu'il serait détruit à un moment ou à un autre, soit de toute façon il n'est pas exploité par eux. Donc voilà, vous avez même des technologies aujourd'hui qui s'appellent, par exemple il y a un truc qui s'appelle OwnCloud, qui est un truc un tout petit peu compliqué, un tout petit peu, mais là aussi c'est des choses qui se démocratisent et qui vont être plus accessibles, mais OwnCloud, ça permet d'avoir entre guillemets son Dropbox à soi. Donc Dropbox, c'est un système qui permet de déposer des gros fichiers et de les partager à plusieurs. OwnCloud, c'est un truc que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui est connecté de façon permanente à Internet et qui va vous permettre, eh bien, de partager des gros fichiers avec les gens à qui vous donnez un accès à ce truc-là. Les autres, ils ne peuvent pas y avoir accès. Vous allez là-dessus pouvoir avoir aussi bien votre agenda, votre playlist de musique que vous pourrez consulter de n'importe où sur la planète, mais avec des accès qui sont réservés et où c'est sur votre ordinateur et pas sur l'ordinateur de la boîte à Dropbox qui peut faire ce qu'il veut des données qui sont chez eux. Donc d'avoir tout un tas de logiques qui vont vers ce qu'on pourrait appeler entre guillemets du home computing. Donc de récupérer sur ses machines à soi, ses données à soi, en les protégeant d'une manière ou d'une autre, notamment avec des solutions de cryptage. Donc voilà, ceci étant, moi je crypte pas tout, mais parce que j'ai toujours l'angoisse d'être amnésique et puis de plus savoir accéder à mes données. Mais à côté de ça, si, il y a quand même des endroits où je crypte des trucs. Et c'est pas toujours très compliqué de crypter. Donc c'est des logiques qui nécessitent effectivement de dire il y a des choses qui sont observés, et Internet, je dois considérer d'abord que c'est un truc au service des grandes oreilles, si j'ai des choses dont je ne souhaite pas qu'elles soient écoutées par tout le monde. Donc voilà, je m'arrêterai là sur cette affaire Snowden.